explorer de nouveaux mondes étranges.
Ah, la vie, quel spectacle!
L'homme de science a toujours été un aventurier.
Je suis prêt.
Le temps d'un bivouac!
Pour nous, l'art existe, cela ne fait aucun doute. Il a sa raison d'être, on y est plus ou moins sensible, nous nous sentons plus ou moins une âme d'artiste, mais nous avons tous au moins une fois dans notre vie eu le sentiment de commettre un geste artistique. Mais les hommes et les femmes qui ont vécu sur cette terre il y a 40 000 ans et qui pour la première fois ont éprouvé le besoin de tracer des traits sur les murs d'une grotte pour représenter certains éléments de leur environnement, ces hommes et ces femmes, qu'avaient-ils en tête ? Avaient-ils conscience que des dizaines de milliers d'années plus tard, leurs descendants découvriraient leurs fresques avec une émotion immense ? Des peintures rupestres préhistoriques ont été mises au jour dans le monde entier, de l'Europe à l'Australie, en passant par l'Asie, l'Afrique et les Amériques. Cet art présente des particularités régionales, mais aussi des traits communs. C'est ce que nous allons voir avec Carole Fritz, archéologue au CNRS, responsable du Centre de Recherche et d'Études de l'Art Préhistorique Émile Cartaillac à la Maison des Sciences de l'Homme et de la Société de Toulouse. Elle a dirigé un très beau livre intitulé « L'art de la préhistoire » aux éditions Citadelle et Masno. Cet après-midi, Carole Fritz nous emmène bivouaquer dans les grottes du monde entier à la découverte des talents artistiques de nos ancêtres. Et en fin d'émission, nous retrouverons Éric Birloez qui nous racontera le voyage d'un nouvel aliment, aujourd'hui l'olive. Voilà pour le programme de cette émission préparée par Mathieu Aoued et réalisée par Anne-Sophie Ladonne et Étienne Bertin avec à la technique Julien Dumont. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Progressivement, on voit arriver et émerger les premières œuvres qui sont des petits dessins rouges, là. On a sur un panneau, vous voyez, je me baisse pour le voir parce qu'il était disposé pour le voir de près, où il y a une cinquantaine de motifs qui le composent, des rhinocéros, des lions, mammouths, des points faits avec la paume de la main. Et là, on a le bestiaire qui est déjà en présence. Dans la première salle, on avait aussi ces magnifiques panneaux de points rouges. Donc on est d'abord accueilli par des œuvres qui sont, je dirais, plutôt abstraites, des points dont la signification nous échappe et même la morphologie générale. Et on passe ensuite à un bestiaire, ces animaux.
La grotte Chauvet-Pont d'Arc, décrite par Jean-Michel Genest, archéologue spécialiste des grottes ornées. C'est un extrait du magazine Des Racines et des Ailes, diffusé en avril 2013. Vous avez eu cette chance, un peu, que peu d'humains ont eu avant au bout sur cette terre, Carole Fritz. Vous avez pu entrer dans cette grotte de Chauvet. C'était en 1998, quand vous y êtes entré pour la première fois. Quel souvenir vous gardez de cette rencontre, de cette découverte?
Ouf! C'était très intense. Oui, j'ai l'extrême chance, on va dire même un privilège,
ouais,
de faire partir de l'équipe scientifique qui travaille dans la grotte depuis 98, donc qui a été mise en place par Jean Clotte. Et notre première visite, là, je l'oublierai jamais, jamais, ouais, parce que c'est monté tout au long de la visite, là, les salles rouges telles que les décrites, qu'elles sont décrites par Jean-Michel. Et puis, on passe dans une petite galerie un peu plus petite. Et puis là, on arrive dans la première grande salle avec cet effondrement, avec ces gravures tout autour. Et puis, on marche, on nous fait voir les gravures. Et puis, Jean-Clotte, qui sait très bien mettre en scène, hein, ouais, il nous attire l'attention vers un autre endroit. Et puis, au moment où on se retourne, on se retrouve là face au panneau des chevaux.
Le panneau des chevaux.
Le panneau des chevaux. Et là, j'ai le souffle coupé, c'est une panique de sentiments. J'ai pleuré, quoi. C'était tellement intense, tellement fort. C'est une émotion que j'oublierai jamais.
Ouais.
Jamais.
Décrivez-le nous, donc, cette fresque avec des chevaux.
Alors, c'est un panneau assez remarquable, puisque quand on arrive devant, on est face, en fait, à la dernière figure qui a été réalisée sur ce panneau.
Ouais.
Qui est un cheval qui semble hennir, très dynamique, la bouche ouverte, la crinière hérissée. Il est associé, ce cheval, à quatre rocs qui sont sur son côté gauche. En dessous, il y a un affrontement de deux rhinocéros. Et lui, donc, c'est le quatrième de quatre spécimens, de quatre chevaux qui sont dessinés les uns en dessous des autres. C'est une vraie composition. C'est-à-dire que l'analyse qu'on en a faite par la suite avec Gilles Tozzello, parce qu'en plus, j'ai eu la chance d'étudier ce panneau.
Vous y avez passé du temps devant...
Des années, on va dire. Ouais,
parce l'émotion reste intacte, au bout d'un moment, on s'habitue.
Non, moi je m'habitue jamais. Je peux pas. C'est évidemment que c'est pas l'émotion de la découverte, mais il y a toujours quelque chose. C'est tellement techniquement les personnes qui ont réalisé ces dessins, pour moi, ce sont l'équivalent des grands dessinateurs, des grands peintres de la Renaissance. Ouais. C'est Léonard, c'est Raphaël, c'est voilà. Pour moi, c'est ça, mais il y a moins 36 000 ans.
Ouais. Vous étiez en train de nous dire, c'est un tableau qui a été composé. C'est un dessin. On est face à une composition. Alors, expliquez pourquoi on voit le travail de l'artiste.
Alors, quand je dis c'est une vraie composition, c'est en termes de composition telle qu'on l'emploie quand on parle de la peinture de chevalet ou d'une fresque d'un peintre contemporain ou non. On étudie ces parois comme on étudie une peinture de chevalet. J'y reviens toujours, mais c'est l'exemple classique. C'est-à-dire qu'on essaie, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette émission qui s'appelait Palette, qui passait sur la 5 il y a des années, où en fait on décomposait le tableau pour arriver à la toile vierge. Et ben nous on fait la même chose. On décompose les dessins les uns par rapport aux autres, chaque figure, chaque trait de la figure pour comprendre comment ils ont été réalisés. Ouais. Et quand on comprend ça, on étudie les superpositions des dessins les uns par rapport aux autres et donc on a la chronologie de la mise en place des figures. Et cette chronologie dans la grotte Chauvet et dans les grottes du Paléolithique nous démontre qu'on est face à des compositions. C'est pas des accumulations de figures les unes à la suite des autres, mais c'est bien quelque chose qui est pensé avant la réalisation.
C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'ils s'étaient fait peut-être sur le sable avec leurs doigts une sorte de brouillon, de dessin avant de projeter tout ça définitivement sur les parois de la grotte.
Ça, on n'en a pas trace, mais en fait, quand on essaie de comprendre ce que veulent dire ces dessins, ça c'est toujours très compliqué, puisque on n'y était pas, j'y étais pas, hélas. Ouais. Et comme je dis souvent, les archéologues sont des grands frustrés, on le sait dès le départ, on n'aura jamais la réponse.
Beaucoup de questions qu'on se pose.
Voilà, beaucoup de questions. On pense de plus en plus qu'on est face à des mythes, en fait, on nous raconte des histoires. Et ces histoires, elles sont dans la tête des hommes et des femmes qui vont réaliser ces dessins. C'est-à-dire que la projection, ils savent par avance ce qu'ils vont projeter, ce qu'ils vont dessiner, parce que c'est cette histoire qu'il faut inscrire sur la paroi. Par exemple, Caravage, on n'a aucun dessin préparatoire. Donc on n'est pas forcément obligé de passer par ce dessin préparatoire. C'est une pensée qui est prédéterminante à la réalisation de l'image.
Est-ce que tous ces dessins ont été réalisés à la même période, par la même équipe? Est-ce que ce sont des générations de peintres qui sont venus? Parce que toutes les salles, il y a plusieurs salles dans cette gigantesque grotte Chauvet, avec certaines qui font 30 mètres de haut, je crois. Ouais. Et c'est orné, chaque pièce est ornée. Est-ce que ce sont les mêmes artistes qui ont fait tout ce travail? Est-ce qu'il y a une accumulation au fil des générations?
Alors voilà, notre souci à nous, c'est qu'on sait aujourd'hui, la grotte Chauvet, c'est certainement la grotte la mieux datée au monde. Ouais. On a près de 250 dates, toutes techniques confondues, pas seulement sur les dessins. Le problème des datations, c'est pas un problème des dessins, mais c'est qu'on peut dater que les dessins noirs qui sont faits au charbon de bois par la méthode du carbone 14. Et là, on a des problèmes éthiques, nous, parce que on veut pas qu'il y ait beaucoup de prélèvements de charbon de bois sur ces figures. Donc, on demande toujours à notre collègue qui est Hélène Valadas, qui travaille au laboratoire LSCE pour les datations C14. S'il te plaît, Hélène, un petit prélèvement. Ouais. Alors, le problème du petit prélèvement, c'est qu'en fait, on n'a pas des datations très, très précises. On n'en a pas déjà pour le C14, de manière globale.
Donc, c'est le carbone 14,
voilà,
le C14.
Voilà, le C14,
datation au carbone 14.
Voilà. Mais là, du coup, on dit les prélèvements sont très petit, on a des datations, mais elles ne nous permettent pas de faire un suivi temporel très précis. On sait qu'il y a deux grandes périodes dans Chauvet. Il y a une période gravétienne, une période aurignacienne aux alentours de 36 000 ans. On sait que tous les dessins noirs qui ont été datés sont dans cette période de moins 36 000 ans. Mmh. Voilà, pour le moment. On n'a pas de datation gravétienne des dessins noirs. Ouais. Alors, est-ce qu'après ça a été fait d'un seul jet ou plusieurs générations? Pour les dessins que nous, on a étudiés jusqu'à maintenant, les techniques sont les mêmes. retrouver la main d'un peintre, c'est déjà difficile sur la peinture de Chevalet. Là, c'est encore plus difficile, mais on retrouve malgré tout des tics de réalisation, la manière de faire les barbes des chevaux ou des choses comme ça. Et on voit bien que on est dans un même continuum technique, un même continuum de tracé. Il n'y a pas tant de personnes que ça qui ont réalisé ces dessins.
C'est-à-dire que au moins ils se sont transmis les techniques et le coup de main. Ce ne sont pas des familles qui n'avaient rien à voir, qui ont peint tous ces.
Non, on est dans un continuum socio-culturel à Chauvet, ça c'est clair.
Au-delà de l'émotion suscitée par les peintures, toujours dans le registre des sensations, quand vous rentrez, alors vous avez la chance d'être allé dans beaucoup de grottes en France et ailleurs, quand vous rentrez dans ces grottes, physiquement, quelles sensations ça donne ? C'est-à-dire qu'on se coupe du monde, déjà les portables ne marchent plus, il y a cette humidité, cette impression peut-être de voyage dans le temps quand on s'enfonce dans la grotte. Qu'est-ce que vous ressentez physiquement à l'intérieur de ces grottes ?
Alors, un bien-être, parce que en fait, c'est vrai que dans nos civilisations, travailler dans une grotte, ça pose un problème psychologique. Notre civilisation, la chrétienté, les grottes, le mal. Bon, bref, je vais pas refaire l'histoire de la pensée catholique. Mais voilà, moi, c'est un bien-être. C'est-à-dire que moi, je trouve ça très bien que le téléphone passe pas, qu'on n'ait pas Internet. On rentre sous terre et on fait, alors que on est très geek dans nos méthodes de travailler avec la 3D, avec tout ça. Et moi, je suis férue de tout ce qui sort et je suis prête à tout essayer. Là, quand je rentre dans une grotte, j'ai fait un voyage dans le passé. C'est ma machine à remonter le temps. Et pour moi, c'est un bien-être, vraiment. On essaie de comprendre ces mentalités, de comprendre ces sociétés. Et quelque part, c'est pas plus mal de ne plus être en contact avec le monde extérieur.
Quelle belle occasion de se déconnecter. D'ailleurs, on s'en est rendu compte parce que pour préparer cette émission, on ne pouvait pas vous avoir tout le temps au téléphone. Là, je suis dans ma grotte parce qu'il y a encore deux jours, vous étiez alors pas à Chauvet ni à Lascaux, vous étiez à Marsoulas, c'est
ça ? Oui, la grotte de Marsoulas, qui est une petite grotte mais très très dense. Dans les Pyrénées, pas très loin de Toulouse, on est à 90 km de Toulouse, sur la commune de Salis-du-Salat, à côté. Oui, c'est l'été, c'est le moment où on part sur le terrain, où on s'enferme dans les grottes, pour faire les mêmes types d'études sur des périodes différentes, puisque là, Chauvet, on est au tout début des dessins de l'humanité, du moins d'Homo sapiens en Europe. Marsoulas, on est sur le début de la fin, si je puis dire, puisqu'on est aux alentours de moins 17 000 ans, donc on est au tout début de la période qu'on appelle magdalénienne, la dernière grande civilisation du Paléolithique supérieur dans les Pyrénées.
Et qu'est-ce qu'on y voit ? Parce qu'elle est beaucoup moins connue, celle-là. Qu'est-ce qu'on peut y voir à Marsoulas ?
Elle est beaucoup moins connue, mais on y voit beaucoup de bisons. Il y a à peu près, on est aux alentours de 500 figures antitégraphiques, signes et animaux, plus tracés indéterminés. C'est beaucoup du bison, du cheval, du bouquetin. Et Marsoulas a une très grande particularité, c'est que dans tout cet art paléolithique, la figure humaine représente que moins de 5% de la totalité du corpus, donc c'est très très peu. Et il s'avère qu'à Marsoulas, on a des figurations humaines un peu plus que d'ordinaire.
On aura l'occasion d'en parler dans le cours de cette émission, justement, de la représentation des humains ou pas sur les parois de ces grottes préhistorique. Nous partons à la découverte des grottes ornées de France, d'Europe et d'ailleurs. Le temps d'un bivouac avec l'archéologue Carole Fritz sur France Inter jusqu'à 17h.
Est-ce que tu sais que 8 jours ça fait 11 520 minutes à la seconde près? Est-ce que tu sais que les avions planent 10 fois leur hauteur? Dit-on mettre prêt. Est-ce que tu sais que quand les fleurs se fanent, elles nous laissent leur odeur, leur amour, là, ici et tout autour. Est-ce que tu sais que quand le meilleur gagne, la plupart du temps c'est juste à un millimètre près. Je sais pas si tu sais. 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 Est-ce que tu sais que de nos yeux coulent des larmes, des fleuves et des fleuves? Je peux pas te dire à la rivière après. Est-ce que tu sais que des doigts poussent des armes, des tonnes et des tonnes? Je
te dire au drame près. Je sais pas si tu essaies. Je sais pas si tu sais. 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 S'éparpille ici, tout le monde ne regarde personne et personne ne voit tout le monde. Je sais pas si tu sais, 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 je sais pas si tu sais.
Est-ce que tu sais, c'était Gaëtan Roussel sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Et maintenant, nous allons nous avancer dans la grotte. Elle est là devant nous, comme je vous l'ai dit, en forme de rotonde. C'est une rotonde de chaos rocailleux, de pierres de couleur ocre dans l'ensemble, un peu argileuses. Et sur ces pierres, sur ces parois rocheuses, des fresques de peinture. Des fresques de peinture absolument étonnantes, étonnantes, je devrais dire, vraiment abasourdissantes de vérité et de conservation. Voici ici un auroch peint en noir et en rouge, poursuivi par des chevaux. Je m'approche d'une autre fresque un petit peu plus loin qui représente des cerfs d'un délié et d'une finesse extraordinaire. Voici un combat de reine, là. Voilà des gravures dans la pierre également. Mais ce qui est vraiment fantastique, c'est la conservation et la pureté des traits de tout cela. On dirait vraiment que cela a été peint il y a 40 ou 50 ans. Et si dans quelques milliers d'années, lorsqu'on retrouvera ces figures, lorsqu'on retrouvera ces fresques qui seront certainement aussi bien conservées que maintenant, et que l'on retrouve également en même temps quelques débris de céramique de certains peintres fameux d'aujourd'hui, en comparant les deux, est-ce qu'on ne pourra pas se demander où est la vraie préhistoire et où est la vraie civilisation?
Michel Droit, journaliste et écrivain, en 1948, s'émerveillant en entrant dans la grotte de Lascaux. Hein, c'était à Lascaux que nous étions. Alors un mot quand même, Carole Fritz, sur l'état de conservation. Hein. Michel Droit, très confiant en 1948, dit que ces peintures vont traverser les âges comme elles ont traversé. Elles ont 16 000 ans, elles ont l'air intactes. Et il dit, dans quelques centaines, voire milliers d'années, ce sera pareil. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ça.
C'est le problème, c'est un problème national en fait, on va dire. Il faut dire que ces grottes, elles sont gérées au niveau national par le ministère de la Culture. Et ils ont en charge, et je dis là aux pauvres agents du ministère de la Culture, de préserver tout ça. Ouais. Et pour préserver, souvent, il faut fermer. Ces grottes, elles ont jamais été faites pour recevoir des centaines et des milliers de personnes sur des années. Elles étaient là pour porter un message de groupe restreint. Mmh. Alors l'ouverture au public, et ben souvent ça les dégrade. L'ouverture au public et les changements climatiques. Il faut savoir qu'une grotte, c'est pas un environnement fermé clos. C'est un environnement, j'aime bien dire, vivant. Ouais. Il se passe des choses. Une grotte, c'est pas fermé. Il y a des fissures, il y a l'air qui passe. Il y a des températures internes qu'il faut respecter. Ça veut dire qu'il y a un environnement stabilisé. À partir du moment où vous changez cet environnement, vous déstabilisez la boîte, si vous voulez, qui contient les dessins. Et là, vous avez des dégradations qui se passent sur les parois. Mmh. Et les dégradations sur les parois, c'est directement les dégradations sur les dessins. Ouais. Voilà.
Ces grottes aussi avaient pour certaines été, leur entrée naturelle avait été obstruée de façon naturelle. Est-ce que ça a contribué à faire qu'elles ont traversé les âges sans être abîmées, justement, parce que ça conservait mieux, comme ça, à l'abri de tout?
C'est l'exemple de la grotte de Marsoulas dont on parlait tout à l'heure. Première grotte découverte dans les Pyrénées en 1898. Il y avait un talus devant. Et en fait, il fallait rentrer par un petit trou au-dessus du talus et on descendait après dans la grotte. Ouais. En 1931, il y a le comte Bégoin et Russell, qui est un Américain, qui font des fouilles, qui fouillent le talus. Ouais. Donc, ils dégagent le talus, ils ouvrent la grotte. Et après, il y a une fermeture qui est faite. Le fait d'avoir enlevé le talus, ça a transformé l'atmosphère interne de la cavité, puisque le talus faisait comme un tampon. Et donc là, aujourd'hui, régulièrement, on a des problèmes de condensation parce que il n'y a plus de tampon qui régule l'atmosphère interne de la cavité.
Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui en France des grottes ornées que l'on peut visiter sans risque d'abîmer les peintures ?
Oui. Il y a des grottes. Ben non, en Ariège, il y a la très très belle grotte de Niaud, hein, ouais, qui fait partie des chefs-d'œuvre par Henri Breuil, hein, des six grands chefs-d'œuvre. Mmh. C'est une très grande grotte de plusieurs kilomètres. Et là, c'est par contre, les visites sont contrôlées. C'est pas plus de 20 personnes par groupe. Il y a peu de groupes dans la journée. Il y a d'autres grottes. Vous pouvez aller voir aussi en Dordogne-Groufignac. Là, c'est une grotte à gestion privée, mais les propriétaires de la grotte sont très attentifs à la conservation du site. Ouais. C'est ça qui doit primer. Ouais. C'est-à-dire, je peux comprendre que le grand public, on dit oui, les grottes sont fermées, mais si elles sont fermées, c'est pas pour priver, c'est pour conserver. Et c'est ça qu'il faut retenir.
Alors, on a commencé avec la grotte Chauvet. Là, on vient de faire un petit détour par la grotte de Lascaux. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la grotte Chauvet est deux fois plus ancienne que... on a tendance... Le passé s'écrase un peu quand on le regarde depuis le présent. Mais en fait, il y a autant de distance en temps qui nous sépare de Lascaux que de distance entre Lascaux et Chauvet. Donc, Chauvet, c'est deux fois plus ancien. Il y avait déjà des artistes 16 000 ans avant Lascaux.
Et oui, c'est ça qui est très difficile à faire comprendre et à mettre en image, si vous voulez. Le temps, c'est ce temps du paléolithique supérieur, quand on dit de moins 40 000 ans, on va dire à moins 11 000 ans, et ben les populations qui vont se succéder là mettent en place des systèmes graphiques. Les premiers, ceux qui arrivent en Europe, c'est-à-dire nous, sapiens, hein, on met en place des systèmes graphiques complexes dès le début. Clac, on arrive, on met ça. Ça veut dire que c'était déjà dans la tête des gens bien avant leur arrivée en Europe.
Ouais. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on en trouve des plus anciennes ailleurs ou que ça émerge ou en tout cas on a surtout des peintures rupestres en Europe aussi anciennes que ça.
Alors, la question est compliquée. Oui et non. moi, je pense que les dessins complexes sont faits par Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire nous. Ouais. Cet Homo sapiens, il arrive à moins 40 000 en Europe, sauf qu'il est présent sur d'autres continents. On sait que les arrivées en Australie, entre autres, c'est aux alentours de moins 40, moins 50 000. C'est-à-dire que pour moi, partout où il y a du sapiens, aux alentours de moins 40 000, on peut trouver des figurations graphiques complexes, des représentations complexes. Ça va avec lui, ça va avec son type de société. Ouais. C'est la société qui produit ça.
Alors, on ira justement un peu plus tard en Australie. Est-ce qu'on trouve ailleurs dans le monde des grottes aussi somptueuses, aussi magistrales que la grotte Chauvet ?
Alors, c'est pas des grottes, ce sont des abris sous roche. Ouais. Le phénomène grotte, bon, d'abord, faut avoir un milieu karstique pour trouver des grottes, et il est très, c'est très paléolithique. Le fait d'aller très très loin dans les grottes pour aller faire des dessins sur les parois, ça, c'est très très paléolithique. Après, ça sera plutôt des abris sous roches, et ça, c'est ça qui est passionnant. Et quand on a rédigé le livre, ça nous a permis aussi de faire un tour du monde visuel de tout ce qu'il y avait. C'était l'intérêt aussi de la première partie de ce livre avec nos collègues, c'est que c'est un phénomène qui se trouve partout sur la planète, à des degrés différents, à des compositions et des qualités graphiques différentes. Mais le fait d'aller inscrire des choses sur des parois d'abris sous roches ou sur des rochers en plein air, il y en a partout.
Ouais. Alors, sans aller très loin, commençons par les pays voisins, en Espagne, Altamira. Très belle grotte.
Ah, magnifique, Altamira. Bah, c'est une des grandes grottes du paléolithique supérieur, du Magdalénien. Cette grotte découverte par une petite fille, hein, pareil, à la fin du 19e.
C'est ça, à chaque fois, les découvertes ont quelque chose de très romanesque. C'est le cas pour Lascaux aussi, où ce sont des enfants qui ont découvert ces grottes. Donc pour Altamira, c'était une petite fille.
Une petite fille. Son père faisait des fouilles à l'entrée de la grotte, le comte de Sotoriola, et la petite fille entre dans la grotte et dit « Papa, papa, regarde, boué. » En fait, c'était des vaches, elle disait, des taureaux. Et il s'avère que sur le plafond d'Altamira, on a des mamelons naturels. Et les paléolithiques, les magdaléniens, ont dessiné des grands taureaux enroulés sur ses mamelons. C'est-à-dire que c'est l'utilisation de la forme naturelle du rocher qui sert de support à ces grands taureaux très puissants, rouges et noirs, en polychromie, qui sont souvent peints et gravés en même temps, donc avec des techniques mixtes, qui sont là, qui sont posés là et qui sont associés à des grandes biches, à d'autres petites figures. C'est un vrai plafond magnifique.
Ouais, alors, vous le dites, hein, ce sont des animaux très finement représentés. Hein, c'est le cas à Altamira, sur les murs de Lascaux, sur Chauvet, dont on parlait tout à l'heure. Et très peu d'hommes représentés. Je vous propose d'écouter la lecture d'un texte de l'écrivain Georges Bataille à ce sujet.
Alors que les peintres du Paléolithique supérieur nous ont laissé d'admirables représentations des animaux qu'ils chassaient, ils s'en sont tirés d'affaire avec des procédés enfantins dès qu'ils ont voulu figurer des hommes. Cette exigence ne témoigne-t-elle pas d'une intention essentielle par rapport à laquelle la représentation d'un homme n'avait pas d'importance en elle-même, elle n'avait d'importance en effet que par rapport à l'animal. Il était nécessaire de donner à l'évocation de l'animal non seulement une valeur centrale, mais un caractère sensible que seule l'image naturaliste pouvait atteindre. L'animal devait être en un sens rendu présent par un appel direct et très puissant à l'imagination, par la représentation sensible. Il était au contraire inutile de faire un effet pour rendre sensible la présence de l'homme. En effet, présent, l'homme l'était déjà dans le fond de la caverne au moment où le rite s'accomplissait.
Extrait du livre de la peinture préhistorique « Lascaux ou la naissance de l'art » écrit en 1955, avec déjà rien que dans le titre cette petite erreur de dire « Lascaux, la naissance de l'art », on l'a compris avec Chauvet, on voit que l'art était né bien avant Lascaux. C'est intéressant hein, ce qu'il dit sur le fait que on s'est donné tout ce mal, toute cette minutie à représenter les animaux le plus exactement possible, et pour dessiner les hommes, on s'en sort avec des procédés enfantins, des traits, des bâtons pour faire les bras, les pieds. Pourquoi ?
Alors, c'est pas des procédés enfantins. J'ai toujours du mal, moi. Mais bon, ça, c'est Georges Bataille. Ça revient souvent, hein, la préhistoire de l'art, donc l'enfance de l'humanité, donc les procédés enfantins. C'est pas une procédé enfantin, c'est volontaire.
Oui.
On a une abstraction de la figure humaine. Ils sont souvent, les humains, qu'ils soient féminins ou masculins, représentés de manière grotesque ou simplifiés à des têtes rondes, avec des yeux, des choses comme ça. Il s'avère que la figure humaine dans tout l'art du paléolithique, donc depuis moins 36 000, on va partir de Chauvet jusqu'à moins 11 000, c'est moins de 5% de la totalité du corpus.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est rien.
On est très peu représenté.
On est très peu représenté. Et on est très peu représenté parce que le vecteur du discours, le vecteur certainement des mythes, c'est pas l'homme, c'est l'animal. C'est ce qui fait la particularité de cet art paléolithique. C'est-à-dire que c'est l'animal qui est sur les parois, c'est l'animal qui raconte certainement des histoires d'hommes. On est face certainement à des mythes. Ouais. Et ces histoires d'hommes, et ben, les vecteurs, c'est l'animal et pas l'homme. Ouais. Alors, est-ce qu'il y avait un interdit autour de la figure humaine? Moi, je le pense. En plus, dans l'ensemble de ces figures humaines, quand vous étudiez ces figures, il s'avère que, en plus de ça, quand on commence à faire des statistiques et qu'on rentre dans la figure humaine aussi, les Vénus, les statuettes de femmes, c'est le corps de la femme qui est dominant, pas le corps de l'homme. Mm-hmm. Il y a des représentations humaines, hein, masculines, avec des phallus, avec des corps d'hommes bien distincts, etc. Mais c'est le corps de la femme en entier ou morcelé à la représentation du sexe hein, et des mm-hmm. jambes. Mm-hmm. Mais c'est ça aussi. Donc, on est là face à quelque chose qui se réduit, qui est certainement très important pour eux. Rien d'enfantin du tout, ouais. Mais c'est l'animal qui est porteur du message et pas l'homme.
Rien d'enfantin, alors pour enfoncer ce clou-là, on peut aussi dire que des artistes contemporains, des artistes de notre époque, ont été complètement bluffés, se sont inspirés de cet art et avec un regard, alors là, pour le coup, pas du tout condescendant. Il paraît que Picasso avait une admiration sans borne pour les peintures d'Altamira, justement, ou encore de Lascaux.
Ah oui, non mais ça, on le voit bien, les artistes contemporains, modernes, l'art préhistorique les laisse jamais insensibles, jamais. Ouais. Moi, j'adore Picasso, notamment toute la série qu'il a fait sur les taureaux de corrida,
ouais.
Parce que certes, il a dessiné des taureaux de corrida, mais dans ces taureaux de corrida, on pourrait très bien voir aussi des dessins, un rappel hein, des grands aurochs paléolithiques. Et surtout, ce qui est très intéressant chez Picasso, ce qu'on retrouve dans l'art paléolithique, c'est qu'il démontre qu'un dessinateur peut passer du réalisme à l'abstraction ouais. et au symbolisme sans, comme ça, très rapidement.
Nous n'avons rien inventé, nous n'avons rien appris, aurait dit Picasso en parlant de ses peintures et du travail qu'avaient fait nos ancêtres sur les parois de ces grottes. Allez, on va s'éloigner un peu du vieux continent et mettre le cap sur l'Australie avec vous, Carole Fritz, le temps d'un bivouac sur France Inter. I finally made some time for me. I'm happy, I'm calm, I'm jiggy, I'm sweet. I'm chasing my dreams, you're Aggie with me. Cause I didn't fit in the mold of your schemes. I'm reckless enough to go spend all my fees, but cautious enough to invest in my dreams. The vision, the board, the flying abroad, the Gucci, the Prada, you're lost in the sauce. I'm lost in the stew, I'm lost in the concept of fixing a brew. Identity crisis for me and my crew. We're black and we're British and African too, but so far removed. I'd like to go back to my mother's land. I'd like mental peace and a 100 grand. And a pink babes and we'll do up raves like it's 98. I'm so 94, but I'm work a lot more money, a vacation home, a Nigerian honey who laughs at my jokes even when they're not funny. Support my cause and I'll support yours. Buy me a Benz, look, I'll buy you a Bimmer. Posted in Jamaica, Beanie Man, Sim Simmer, a Honda Accord. Who's got the keys to the Porsche? Force, he's got some keys to afford. I'm so flawed, but that's calm. I can't sleep, I take calms. Herbal remedies like tea for me. Gucci, drinking wine and cheese. Catch me in the dance, drinking wine, say cheese. You got that foot in your mouth situation. I got that foot up my inspiration. World domination. But I I Want, chanté par Eni sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Mes ancêtres ont vécu ici. Mon arrière-arrière-grand-père, ma grand-mère, mon grand-oncle et tous les membres de ma famille sont présents pour toujours à Nawarla Gabarnmang. Ici, on a un gros barramundi. Au-dessus, c'est une dorade. Et un autre petit poisson, là. Là, je vois un crocodile. Celui-ci, c'est un grand kangourou qui va jusque-là. Vous voyez sa queue qui fait le tour ici. Et là, sa tête et ses oreilles.
C'était Margaret Catherine, une aborigène d'Australie, observant les dessins sur Nawarla Gabarnmang, un gigantesque abri rocheux façonné par les vents et aussi sculpté en partie par l'homme. On peut parler du premier monument humain. Nous sommes donc en Australie, Carole Fritz. Il a un intérêt tout particulier, ce site australien.
Oui, d'abord un intérêt scientifique, c'est-à-dire qu'il a été étudié par une équipe franco-australienne. Bruno David qui est australien et puis Jean-Michel Genest et Jean-Jacques Delannoy qui font également partie de l'équipe Chauvet qui sont allés travailler avec lui là-bas. Et ça c'est un intérêt important parce que c'est extrêmement rare. L'intérêt aussi c'est que l'étude carstologique qui a été faite par Jean-Jacques Delannoy, c'est-à-dire étudier la surface rocheuse, c'est-à-dire ouais. l'abri. Est-ce que cet abri qui est soutenu par des grands piliers, est-ce que c'est le vent qui a fait ça ou est-ce que c'est plus compliqué que ça?
Ce sont les hommes qui ont un petit peu façonné aussi
voilà, il s'avère que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que c'est les hommes qui ont aménagé l'abri sous roche. Et cet abri sous roche, il est recouvert de grandes peintures qui font 3 mètres de long, qui sont celles qu'on voit à l'heure actuelle assez récentes en réalité. Et ils ont également fait des fouilles. Et là, dans les fouilles, ils ont trouvé une petite plaquette peinte qui a été daté de moins 28 000 ans. C'est-à-dire que l'Australie, elle est fascinante pour moi, archéologue, puisqu'on a une continuité depuis les âges très anciens de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, avec des populations qui sont encore là, les aborigènes. Alors, eux, ils se revendiquent, bien sûr, d'une lignée directe avec les aborigènes d'il y a moins 40 000 ans, surtout par cette mythologie, le temps du rêve, qui perdure, qui reste, qui pratique encore, parce qu'ils pratiquent encore dans les abris. Et comme disait Lévi-Strauss, les mythes, ça ne meurt pas. Ça vit, ça se transforme. Alors, il est certain que les mythes, aujourd'hui, aborigènes australiens, ils ont été transformés par les contacts avec l'homme blanc, mais qu'il y a des racines profondes qui viennent de très très loin. Et ça, pour nous, c'est très intéressant de voir comment les populations actuelles gèrent mentalement ces mythes anciens et comment ils les font vivre encore aujourd'hui.
Ce serait sur Terre le seul cas d'une culture, d'une civilisation qui aurait traversé sans trop de modifications les âges sur une période aussi longue ?
Oui, il y a eux et un peu les Bushmen, mais les Bushmen, ils sont trop maintenant peu nombreux pour pouvoir arriver à faire un travail comme on peut le faire aujourd'hui avec les aborigènes. Ouais. C'est là qu'on voit aussi, quand je vous dis l'art paléolithique de moins 36 000 à moins 10 000, là c'est l'art aborigène de moins 40 000 à aujourd'hui.
Ouais.
C'est-à-dire que pour nous, hommes modernes, ou il faut que tout change tout le temps, très vite. On peut pas rester en place. Il faut que la civilisation augmente. Le bienfait de la civilisation, c'est d'avoir des smartphones, d'aller en acheter un neuf tous les 2 ans, ou voire tous les ans maintenant. Mm-hmm. Dans ces populations-là, le must du must, c'est que rien ne change.
Ouais.
Et c'est ça les civilisations du paléolithique. C'est surtout une stabilité sociale constante. Et c'est ce qu'on voit quand on étudie ces populations-là. On n'a pas le même rapport au temps, le même rapport au temps qui passe et le même rapport à l'autre.
Et le fait de pouvoir les observer encore aujourd'hui, décorer, faire des œuvres d'art sur les parois de ces abris rocheux, est-ce que ça nous aide aussi à savoir comment ça se passait avant ou est-ce qu'on peut pas faire des parallèles comme ça à travers le temps ?
Alors, je vais être très honnête, moi ça me choque.
Ouais.
Non, entre guillemets, c'est-à-dire que ils vont encore faire des dessins sur des sites très 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 anciens qui leur appartient sociologiquement, mais qui leur appartient pas pour moi dans le temps. Puisqu'en fait, même s'ils se revendiquent les hommes D'accord. de moins 40 000 ans, voilà. Après, on apprend des choses. Puisque
ce qui vous choque, c'est qu'on les observe comme des hommes préhistoriques d'aujourd'hui, ou ce qui vous choque, c'est qu'ils dessinent sur des peintures d'il y a 40 000 ans et qu'ils les abîment.
Un peu les deux. Un peu les deux, parce que du coup, on ne peut pas remonter aux racines, aux vraies racines de leur civilisation. Vous voyez, si moi je disais, là c'est très incorrect ce que je vous dis.
Ouais.
Si je disais ça en Australie, mais je serais interdit d'Australie jusqu'à la fin de mes jours.
D'accord.
Mais c'est leur histoire et c'est leur continuité. Voilà. Et il la revendique comme ça. Après, ça pose d'autres problèmes. Mais moi, ce qui est très intéressant, c'est de les entendre parler, les entendre raconter ce que pensent de cette histoire.
Ouais.
Et l'aborigène que vous venez d'écouter, elle est remarquable. Je l'ai rencontrée une fois dans ma vie. Et franchement, je l'aurais écouté parler, mais pendant des heures et des heures.
Bon, j'espère qu'on ne nous écoute pas en Australie,
j'espère
qu'on ne leur traduira
aussi,
pas pour, pas que, pour que vous puissiez retourner là-bas et continuer de discuter avec cet aborigène. On change d'endroit en essayant de ne pas se fâcher avec la terre entière. En Afrique du Sud aussi, il y a des belles grottes ornées.
Pas des grottes, des abris.
Des abris encore rocheux.
Je pense...
Quelle différence vous faites entre un abri rocheux et une grotte ornée ?
Une grotte ornée, vous pénétrez réellement sous terre,
ouais.
plus ou moins profondément. Et un abri rocheux, en fait, c'est le vent qui a, creusé
ouais.
La colline. Et vous avez une petite entrée, mais pas très profonde, en fait.
D'accord.
Voilà, c'est-à-dire que vous voyez le jour.
Ouais. Alors sur ces abris rocheux, qu'est-ce qu'on peut voir?
Et là l'Afrique du Sud pour moi c'est en fait l'Australie et l'Afrique du Sud sont vraiment les deux territoires pour lesquels j'ai beaucoup de fascination.
Ouais.
Puisque ces aborigènes, ils sont d'une maniaquerie graphique impressionnante, c'est-à-dire que quand vous regardez ces dessins, ils sont d'une finesse, c'est fait souvent avec des pinceaux, avec des poils extrêmement fins. Et franchement, plus fin que ça, c'est dans la réalisation, c'est un travail, pour moi, ça me fait penser à la peinture japonaise sur des tout petits supports, c'est exactement la même chose. Ouais. Et surtout, c'est aussi réaliste qu'on peut l'imaginer, parce que ça passe toujours au travers d'un fil culturel, mais quand vous voyez ces élans rouge, beige et blanc, faits au pinceau très fin, vous avez tous les poils qui sont marqués, les petites oreilles fines, les petits poils autour des yeux, sur le fanon, c'est d'une beauté remarquable. Ouais. Et ça c'est les aborigènes, quoi. Ouais. Voilà.
Alors on continue un peu de se balader, allons dans l'Asie du Sud-Est, à Bornéo. Là on a trouvé sur des grottes, ça c'est intéressant, on a trouvé des mains, des empreintes de mains, c'est en pochoir, on met la main et puis on vaporise du pigment ou de la peinture par-dessus, et quand on retire la main, une trace de main en négatif apparaît. Ça on l'a observé dans des grottes de Bornéo. On l'a observé dans d'autres endroits, des populations qui ne se sont pas croisées, qui ne se connaissaient pas et qui avaient les mêmes pratiques. Qu'est-ce que ça dit, le fait qu'il y ait une sorte d'unité artistique presque en nous, sans qu'on ait eu besoin de se copier ou de se concerter?
Ben, la main, c'est certainement un des universaux de la pensée d'Homo sapiens, c'est-à-dire de nous. On la retrouve sur tous les continents. Depuis Bornéo, jusqu'en Afrique du Sud, en Amérique du Sud également. Cette main, elle est... et en Inde encore aujourd'hui, par exemple, dans le livre, Jean-Claude a fait un article, où on a encore des peintures de mains positives ou négatives pratiquées encore sur les maisons à l'heure actuelle. Ça veut dire que, au travers de cette main, il y a quelque chose qui passe. Alors, c'est ce quelque chose qui passe qu'on n'arrive pas à matérialiser, en fait. Mais c'est un symbole fort, un symbole qui est ancré en nous très profondément depuis très longtemps. À un tel point, c'est qu'aux États-Unis, vous avez le nom du site m'échappe là pour le moment, mais vous avez une main humaine sur lequel a été pochée, une patte de lézard. Voilà. Alors, je suppose que le lézard ne devait pas être très vivant quand tu viens pocher sa main, mais le symbolisme est très fort. Vous avez la main de l'homme et la main de l'animal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même... Là aussi, on est dans des constantes de la pensée. Alors, est-ce que le main, c'est la contact de l'homme sans avoir la représentation humaine, le fait qu'il y ait de la main? Est-ce que c'est pas aussi cette représentation humaine qui est là? Le contact avec quoi? Jean-Claude dirait avec l'au-delà, avec au-delà de la paroi. Mais tout ça, on en a pas de traces archéologiques.
Le fait qu'on y associe, sans certitude, mais qu'on y associe certaines croyances, certaines pratiques religieuses, chamaniques, est-ce que ça empêche de considérer ça comme de l'art? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça s'oppose, le côté spirituel et le côté artistique, ou est-ce que l'un peut aller avec l'autre?
Ah non, ça s'oppose pas. Est-ce qu'on aurait dit, je sais pas moi, que Raphaël ne faisait pas de la peinture religieuse? Ça s'oppose absolument pas. Notre problème à nous, c'est de mettre une explication derrière ces gestes. Le chamanisme, c'est une pratique, en fait. Il y avait certainement des pratiques chamaniques. On n'en sait rien, on ne sait pas. Ce que l'on sait aujourd'hui de manière certaine, et ça l'anthropologie nous l'apprend et nous l'a appris, c'est que il n'existe pas de société sans écriture, c'est-à-dire de société préhistorique. On est bien d'accord. La préhistoire, ce n'est pas que le paléolithique, c'est subactuel, voire encore actuel, dans certaines régions. Il n'existe pas de société sans écriture qui n'ait pas de mythe. Parce que les mythes, ça organise la société, ça organise le temps, ça explique le passé, ça organise le présent, les relations sociales, les relations à l'intérieur et le futur.
Donc ce qui serait surprenant et inexplicable, c'est qu'il n'ait pas eu de mythe.
Exactement.
Ce qu'on n'avait pas vu peut-être jusqu'alors, c'est le fait que la caverne était sentie par les paléolithiques comme un fond dans lequel s'ordonnaient leurs figures. J'ai été obligé de prendre le détour de la topographie statistique, de fixer des centaines de figures dans leur situation, pour m'apercevoir que finalement, les bisons n'occupaient pas la même position que les chevaux, que les taureaux, que les cerfs, que les bouquetins, etc. Et que tout ça s'organisait dans un système où on retrouvait les mêmes fréquences, c'est-à-dire l'opposition du bison et du cheval, ou du taureau et du cheval, ou du mammouth qui vient compléter un groupe bison-cheval, etc. Découverte qui, pour moi-même, a été très inattendue.
André Leroy-Gourand, ethnologue, archéologue, comparant les peintures dans différentes grottes ornées. Nous étions en 1965. Carol Fritz, est-ce qu'il existe des règles communes dans l'art pariétal, des sortes de constantes que l'on retrouve sur toutes les parois du monde et à toutes les époques, qui seraient une sorte de signature de notre humanité?
Ça serait beau, mais non. Ah. Sur toutes les parois du monde, non. Et là, non, et beau, oui, mais un peu triste, en fait. Donc, c'est vrai que chaque société va s'imprégner et, je vais dire, utiliser les symboles pour son système de communication. Ce que nous a beaucoup appris le roi Gourand, c'est que, pour l'art paléolithique, que c'était justement des figurations dans un espace, mais que cet espace et ces figurations, il y avait une structuration. C'est-à-dire que, justement, moi je vous ai parlé de composition tout à l'heure, lui, il nous a fait voir que on rentrait dans les grottes, mais que le discours qui accompagnait ces images, il était parfaitement structuré.
Est-ce qu'on peut imaginer que dans le sol français, il y a encore des endroits, des grottes aussi précieuses, aussi sublimes que Chauvet, que Lascaux, que l'on n'a pas encore découvertes?
Moi je dirais pourquoi pas.
On les cherche.
Mais alors, il y a beaucoup moins à l'heure actuelle certainement de prospections qu'il y avait dans quelques années. Et puis, toutes les grottes ont toujours été trouvées par des prospections. Bon, Lascaux des enfants, mais Chauvet, c'est Jean-Marie Chauvet, Christian Hiller et Eliette Brunel qui l'ont découverte parce qu'ils prospectaient, ils cherchaient des grottes. Ils en ont trouvé d'autres dans la vallée de l'Ardèche. Donc, il faut continuer à prospecter et il y aura certainement d'autres grottes.
Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Très rapidement, en quelques secondes, Jean-Paul vous demande, les artistes de l'époque avaient-ils un statut particulier? Comment le savoir?
Comment le savoir? C'est difficile, mais ce qu'on peut dire, c'est que il y avait un choix. C'est-à-dire que tout le monde ne pouvait pas dessiner, en tous les cas, à mon regard, dans les grottes. Et on voit bien que quand on devait favoriser quelqu'un, on favorisait ceux qui savaient le faire.
Oui, effectivement. En tout cas, ceux qui nous ont laissé des dessins savaient manifestement le faire. Vous en serez convaincus après avoir jeté un œil à votre livre « L'art de la préhistoire » sous la direction donc de Carol Fritz aux éditions Citadelle et Masno. Un grand merci à vous, Carol Fritz.
Merci à vous.
Restez avec nous dans un instant. Nous partons pour une nouvelle odyssée savoureuse avec Éric Birloez sur les routes d'un aliment. C'était Bapa, chanté par Geoffrey Gouroumoul, Younoupingou sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Sens-moi ça, ça sent bon, ça sent le jardin, ça sent les quatre saisons, ça sent la terre.
Bonjour Éric Birloez.
Bonjour Daniel.
Vous êtes sociologue de l'alimentation et tous les lundis de l'été, en fin d'émission, vous nous racontez une odyssée savoureuse, l'histoire d'un aliment, d'un fruit, d'un légume, d'une épice qui a beaucoup voyagé avant d'arriver dans nos recettes et nos assiettes.
Je vous propose d'aller bivouaquer sur les rives de la Méditerranée. Et nous allons mettre le cap vers le Levant pour partir à la recherche des origines d'un arbre, un arbre au tronc court et tortueux, au feuillage argenté et persistant, un arbre à la longévité exceptionnelle puisqu'il peut vivre 2000 voire 3000 ans. Et je veux bien sûr parler de l'olivier.
Et cet olivier est donc né dans le bassin méditerranéen.
Oui, mais les archéologues pensent qu'il a été domestiqué plusieurs fois de façon indépendante dans différentes régions de ce bassin méditerranéen. Les toutes premières cultures d'oliviers auraient été pratiquées il y a 6000 ans sur la rive est de la Méditerranée à partir d'un buisson épineux sauvage nommé oléastre. Et puis, l'olivier aurait voyagé. Il aurait été apporté en Provence par les Phocéens, vous savez Daniel, ces colons grecs qui ont fondé Massalia, la future Marseille, vers 600 avant Jésus-Christ.
Et les anciens pensaient que l'olivier avait une origine sacrée, divine.
Oui, absolument. Dans la Grèce antique, l'olivier était un arbre respecté et protégé, et son bois était réservé à la fabrication des statues du culte. Il y a d'ailleurs un mythe grec qui raconte l'origine sacrée attribuée à l'olivier. Je peux vous le résumer en deux mots, si vous voulez. Alors à ma gauche, Poséidon, le dieu de la mer, à ma droite, Athéna, donc deux divinités, qui se querellent pour obtenir la souveraineté sur l'Attique, la région d'Athènes. Pour départager les rivaux, les autres dieux décident d'organiser un concours et le vainqueur, ce sera celui ou celle qui offrira à l'humanité le cadeau le plus utile.
Ah, et alors que va offrir chacun des deux adversaires?
Eh bien, Poséidon frappe de son trident le sol de l'Acropole et aussitôt en surgit un cheval magnifique dont les hommes pourront faire de très nombreux usages en temps de paix comme en temps de guerre. Athéna, elle, touche de la pointe de sa lance une petite motte de terre d'où jaillit un arbre immortel qui, je cite le mythe, est susceptible de donner la flamme pour illuminer les nuits, d'adoucir les blessures, d'être générateur d'un aliment précieux, riche en saveurs et donneur d'énergie. Et là, les dieux sont unanimes, le don de l'olivier est supérieur à celui du cheval, et c'est donc Athéna qui est choisie comme protectrice d'Athènes et de sa région.
Ah tiens, et les anciens vont aussi attribuer à l'olivier une grande richesse symbolique.
Oui, par exemple, dans le récit biblique du déluge, l'arbre est symbole de paix. Lorsque cesse enfin la pluie, Noé envoie chaque jour depuis son arche une colombe pour reconnaître les environs. Et le texte dit qu'un jour, je cite encore, « la colombe revient à lui sur le soir, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur terre. » Et donc, à partir de ce moment fondateur, l'olivier devient le symbole de la réconciliation entre Yahvé et son peuple. Pensez aussi d'ailleurs, Daniel, à la célèbre colombe de la paix que Picasso a dessinée en 1949 et qui tient dans son bec un rameau d'olivier.
Et il y a évidemment l'olivier, mais aussi les produits, l'olive et l'huile d'olive.
Bien sûr, et dans l'Antiquité, posséder des oliviers était synonyme de sécurité alimentaire et même au-delà de richesse, de prospérité. Et quant à l'huile d'olive, elle symbolisait la vie, la pureté. Et d'ailleurs, dans les trois religions monothéistes, elle symbolisait la lumière divine, car on l'a oublié. Mais l'huile d'olive servait à remplir les petites lampes de terre cuite pour éclairer les maisons ou les temples. Et puis, l'huile d'olive était bien sûr utilisée pour la cuisine, pour l'assaisonnement, la cuisson des aliments, et aussi pour les soins du corps, on en faisait déjà des savons, pour protéger la peau contre le froid, contre le soleil, les piqûres d'insectes, ou encore pour confectionner des remèdes, soigner les plaies, etc. Et on utilisait aussi cette huile d'olive pour imperméabiliser les cuirs, ou pour des rites religieux et funéraires, etc. etc.
Oui, mais alors ça ne m'a pas échappé, hein, les olives, il y en a des vertes et des noires.
Et aussi des violettes, mais il ne s'agit pas de variétés différentes, mais de stades de maturité différents. Les vertes ont été cueillies avant d'être totalement mûres, les noires ce sont des olives vertes qu'on a laissées sur l'arbre jusqu'à leur maturité complète, les violettes, elles, sont cueillies à un stade intermédiaire.
Et aujourd'hui, l'olive en cuisine, ça donne quoi ?
Eh bien, je pense qu'il serait dommage de cantonner l'olive aux seuls apéritifs, tapenades, salades estivales, pizzas. Il y a de nombreuses recettes salées ou sucrées que l'on peut réaliser. Alors bien sûr, il y a le classique poulet aux olives, canard aux olives, sauté de veau aux olives. Mais les olives peuvent aussi entrer dans la composition, par exemple, d'un feuilleté au thon, aux chèvres et aux olives, d'un pain ou d'une fougasse aux olives et aux herbes, ou encore d'un poisson pané aux olives. Côté sucré, on peut confectionner des cakes aux olives et aussi des muffins, des palmiers aux olives noires, des cookies au chocolat noir et aux olives violettes. Et ma liste est loin d'être exhaustive.
Oui, mais ça a suffi pour nous mettre l'eau à la bouche. Merci Éric Birloez. Je précise que vous avez récemment publié « Petite et grande histoire des légumes » aux éditions Quae. Et on vous retrouve eh bien lundi prochain pour une nouvelle odyssée savoureuse. À lundi Éric.
À lundi, Daniel.
Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast. Merci pour vos messages sur la page Facebook ou sur la page de l'émission sur franceinter.fr. À demain pour de nouvelles aventures.